France Inter. Ces jours-ci, je me suis dit, c'est quand même marrant cette façon qu'on a tout le temps de nous minorer, de nous mépriser, de nous mettre tout au fond du couloir et dans les placards de l'histoire, là, effacer, paf, oublier. Si on compte pas, c'est qu'on sait pas des incapables, déraisonnables. Ah non, vraiment, on peut pas se fier à cette moitié de l'humanité à qui on va pourtant demander de tout gérer, de tout porter, tout supporter, tout essuyer. Et même le cul du petit dernier, là, tu souris, tu dis merci. Et moi, je me dis, quand même, c'est pas un tout petit peu risqué, toutes ces responsabilités confiées à des demeurés. En fait, tu perds à tous les coups, tu vaux rien, mais on te charge de tout. Et puis j'ai pensé, en fait, quand tu deviens mère, ça s'arrange pas et c'est même pire, regarde-moi ça. Quand l'enfant va, vive le papa, quand ça déconne, mat, ça daronne. Quand on s'inquiète, quand on alerte, c'est juste qu'on a perdu la tête, qu'on les couvre trop et que c'est ça qui fait que l'enfant, il va pas. Oui mais voilà, on a raison, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on était incompétente, là on nous voudrait toute puissante, omnipotente, omniprésente, à tout gérer et tout porter, tout supporter. Et surtout, jamais, jamais flancher. Hé hey, on se foutrait pas un petit peu de notre gueule, en fait?
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Jennifer Borsellino.
Bonsoir, merci.
Vous n'avez pas encore 40 ans et déjà une longue vie de combat derrière vous. Combat pour qu'on arrête de se foutre de nous, nous les femmes, nous les mères?
Oui. Ouais. Oui, clairement, on peut le dire, oui.
Contre le sexisme, vous vous êtes battue pour vous faire une place, pour vous faire entendre. Vous vous êtes battue pour qu'on dépiste, reconnaisse, traite la maladie dont souffre votre fils. Vous vous êtes battue plus fort encore et vous avez gagné. On a cherché, on a trouvé. Et enfin, vous avez pu faire ce qu'il fallait pour qu'Eliott vive le mieux du monde avec sa myopathie. Vous diriez que ça y est, aujourd'hui, le combat est terminé?
Terminé, non. Je pense qu'il est permanent, en fait, le combat qui se réinvente tous les jours. Mais en tout cas, je le mène. On le mène, parce que je pense qu'on est plusieurs et que c'est important de ne pas être seul dans ces moments-là. Donc le combat, il est encore, mais on va dire qu'on a de l'entraînement.
Pour que l'inclusion ne soit pas un vain mot, vous siégez dans différentes instances liées au handicap. Vous êtes aussi médiatrice en santé père à la Maison de l'Enfant et de la Famille de Créteil. Et ça, c'est une place toute nouvelle qui vient de se créer dans le circuit de soins. Une place pour un maillon essentiel de cette chaîne. Mais encore en quelques mots, Jennifer, l'idée, c'est quoi ?
L'idée, c'est une idée absolument incroyable qui a été portée, qui est toujours portée par le CCOMS, le centre collaborateur de l'OMS en France, qui se situe donc à Lille, et qui est de mettre des usagers de la santé mentale au sein des établissements qui reçoivent donc des personnes pour des soins de santé mentale. Jusque-là, on est à peu près 180 médiateurs santé-pair actuellement formés. Ça fait à peu près 10 ans que le programme existe. Et pour la première fois, donc je suis la seule et unique encore, mais j'espère plus pour longtemps, médiatrice santé-père en pédopsychiatrie, puisque pour le coup, bien sûr, on ne va pas embaucher des enfants de 3, 4, 10 ans. Mais donc, c'est les parents qui sont embauchés et qui peuvent permettre, en fait, accéder au système de santé, à faire partie de l'équipe pleinement, comme tous les autres professionnels, et porter la voix des familles, des concernés.
Comme si vous étiez délégué de parents ou délégués syndicales, mais dans une structure de soins, c'est un peu l'idée.
C'est un peu l'idée de la démocratie sanitaire, en fait, voilà, de pouvoir faire entendre la voix des personnes concernées au sein du système de santé et pouvoir faire ouvrir des horizons de vues différentes, en fait, d'une même situation, et puis aussi parler avec les familles directement pour qu'elles se sentent moins seules et qu'elles ne se disent pas que les milieux de soins, c'est là où on a gagné, on a réussi à ne pas être malade ou ne pas avoir besoin de soins. Comme elle, je peux avoir de temps en temps besoin de soins, ou mon enfant avoir besoin de soins, et être une professionnelle comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment porteur d'espoir pour elle.
Ici, vous êtes chez vous aussi et à votre place, pleinement. D'autres l'ont testé avant vous, et vous le savez, puisque vous connaissez cette émission. Vous savez donc que c'est le moment où je vais vous tendre un
miroir.
Hey, il est là, prenez-le. Il est votre ami. Vous pouvez lui sourire, oui, oui.
Je lui souris.
Et dites-nous. Qu'est-ce que vous voyez ou qui vous voyez quand vous regardez dans ce miroir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent?
J'ai envie de leur dire que, effectivement, je pense que comme beaucoup, j'y vois énormément de défauts, mais qu'au final, j'ai pas envie, ou du moins j'ai plus envie de m'y arrêter. J'ai envie de me concentrer vers tout ce que ce reflet en fait a pu faire et peut faire et pourra faire, et pas que ce qu'il est, mais également tout ce qu'il peut.
France Inter. En marge.
Et voici la vie.
Comme des oufs en studio. Il était une fois la vie, série culte d'animation sur une musique de Michel Legrand. Eh ouais. Vous êtes où, Jennifer, quand vous l'entendez ? Que vous racontent vos souvenirs, là ?
Ah, je suis chez mes grands-parents.
Ouais.
J'ai mes grands-parents devant la télé et j'adore. C'est vraiment ma passion, cette série. Je pense que j'ai regardé tous les épisodes plusieurs fois.
Alors, chez vos grands-parents, c'est l'annexe, et ouais. On va en parler. L'épicentre, c'est cet appartement de 3 étages avec une pièce par étage. De l'un à l'autre s'échappent les vapeurs de la cafetière italienne Bialetti, évidemment, la fumée du papier d'Arménie et l'odeur de tabac. Dans le salon, la télé allumée, si c'est l'heure des nuls, l'émission. Sinon, c'est le lecteur vinyle et puis CD, beaucoup de musique à la maison. Et à part ça, l'ambiance de vos plus jeunes années, c'était quoi ?
L'ambiance, je dirais, ça dépendait un peu des périodes, des moments. C'était des hauts, des bas, mais au final, beaucoup d'amour. Moi, c'est ce que j'en retiens.
Votre mère, Jasmine, est guichetière dans une banque et ascendant mère poule, hein, semble-t-il.
Oui.
Quand vous la regardiez avec vos yeux d'enfant, vous vous disiez quoi ?
Je me disais que j'étais très admirative parce qu'elle a énormément de courage. Elle a vécu une jeunesse pas forcément évidente. Elle a dû fuir un pays alors qu'elle était toute petite et qu'elle comprenait pas vraiment
Serbie,
ce qui se passait.
Ça.
La Serbie, ouais, tout à fait. Elle est arrivée dans un pays qu'elle connaissait pas, une langue qu'elle connaissait pas. Et puis, elle s'en est sortie. Elle m'a toujours aimée très fort, alors que j'étais une petite surprise qui s'est glissée dans son ventre sans demander l'autorisation à personne. Je crois que j'étais déjà un petit peu autonome et indépendante. Donc, beaucoup d'admiration.
Votre père, Emmanuel, inspecteur de sécurité à la ville de Paris, drôle de mélange de punk et de militaire, nous avez-vous écrit en préparant cette émission, mais encore.
Oui, c'est complètement ça. Il a un côté très destroy dans certaines idées, même dans ses choix musicaux ou autres. Moi, j'ai toujours entendu les Clash, les Sex Pistols, etc. Et d'un autre côté, il a fait l'armée, il s'y était vachement plus. Enfin, voilà, ça le représente dans toute sa dichotomie.
Et en tout cas, c'est le genre à vous emmener voir les Stones à Longchamp pour vos 10 ans. Et ça fait rêver. Rapport, est-ce que vous aviez avec votre père et avec votre mère quand vous étiez petite fille ?
J'avais un rapport de vouloir prendre soin d'eux, de pas vouloir, de leur vouloir beaucoup de bien, de pas vouloir les inquiéter, que tout aille bien pour eux.
Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, très amoureux, ils vous ont jeune, très jeune aussi, 20 ans à peine, ils ont leur fragilité, des histoires migratoires compliquées qui coulent dans leurs veines, l'Italie ou la Serbie, on le disait, une responsabilité, devenir parents qui leur tombent dessus avant même de savoir exactement qui ils sont. Et alors chacun lutte avec ses démons et les deux font comme ils peuvent, mais disons que jusqu'à un âge assez avancé, ça n'est pas vraiment avec eux que vous retrouverez le cadre et la sécurité. En revanche, nous y voilà, vos grands-parents, grands-parents paternels, qui habitent à 100 mètres de l'appartement à 3 pièces, 3 étages. Ça change quoi pour vous de les avoir là, dans le coin ?
C'est génial, c'est mes piliers, c'est mes rocs. C'est vrai qu'ils ont toujours été On appelait chez eux, en fait, la plaque tournante de la famille. Ouais. On disait que tout passait toujours par chez eux, pour tout le monde. C'était un peu, voilà, la meilleure façon de pouvoir tous tout gérer. Enfin, moi, j'ai des souvenirs où ils ont géré même des choses administratives, les courses, le linge. Enfin, ils ont toujours été là avec beaucoup d'amour et à toujours nous encourager tous, parce qu'évidemment, il y a moi, mais pas que, il y a tous les autres membres de la famille, à nous encourager à être ce qu'on voulait être. Et ça, je les en remercie énormément.
Vous ne savez pas ce que vous deviendrez plus tard, en tout cas faire des enfants, ça c'est sûr. Vous en voulez, vous les aurez jeunes, vous le jurez. Au mur de votre chambre, en attendant partout, des posters de chiens dans le casque et puis dans les écouteurs. I am, Kerry James, NTM, la graine de la révolte pousse, pousse, pousse. Vous découvrez le rap et vous adorez ça. Sur votre table de chevet, ce livre, culte, le journal d'Anne Frank, elle vous a bouleversé et puis elle vous a hanté cette histoire. Pourquoi ?
Elle m'a hantée, bouleversée, effectivement. J'étais en primaire quand je l'ai lue et c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée. En plus, ça veut dire que j'ai grandi dans le quartier du Marais. Donc, quartier, effectivement, où il y a une forte communauté juive, oui, ouais. Où il y a le mémorial désormais de la Shoah. Donc, c'est une histoire, effectivement, qui était souvent autour de moi et où je me disais, mais c'est fou, comment l'être humain a pu en arriver là ? Comment faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau ? Comment faire en sorte que toute personne, quelle qu'elle soit, ne se retrouve plus à être complètement au banc de la société ? Et bien pire, évidemment. Et c'est vrai que elle m'a beaucoup marqué son histoire, surtout de la part d'une jeune fille aussi jeune, de son âge, pouvait m'identifier, me dire que, en fait, on est ce qu'on pensait être, mais au final, il suffit de naître avec quelques années d'écart et on n'est plus du tout la même personne. Donc, ça m'a fait ressentir beaucoup d'humilité.
Alors un jour, plus tard, vous serez Simone Veil ou un genre de. Face à une assemblée hostile contre les injustices, vous vous dresserez et vous ferez voter une loi qui changera la vie des femmes. C'est ce que vous vous racontiez, petite, hein, c'est comme ça que vous vous racontiez la suite. Mais nous voilà en 2002, le 21 avril, très exactement, un choc et il est national. Le Pen est au second tour de la présidentielle. Dès le lendemain, une marée humaine investit les rues.
Nous sommes tous les enfants d'immigrés.
C'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver, et vraiment, faut que ça cesse.
Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous?
On devrait se rassembler. On a nos marmots, on a la marre, on rêve de liberté. Pourtant, dans nos quartiers, les mecs savent bluffer. On devrait s'armer de savoir et puis se faire fourrer. Bannir le camp, on a tout imposé, le respect, l'autrui. On devrait faire gaffe et pas se tromper d'ennemis.
Fassi et ministère amer avec ce morceau « On devrait » composé au lendemain de cette élection. Vous étiez dans les cortèges, Jennifer ?
Bien sûr.
Évidemment.
Évidemment. Et j'ai fait aussi, parce qu'il y avait évidemment des cortèges de lycéens à certains jours. Il y avait bien sûr la grande manif avec tout le monde, mais il y a eu d'autres manifs uniquement de lycéens. Moi, j'étais lycéenne à l'époque. Et j'ai un souvenir très précis d'être revenue le lendemain avec un billet d'absence auprès de mon CPE qui marquait dessus « Manif anti-Le Pen » et d'avoir eu comme réponse « Bravo mademoiselle ». Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que si ma fille faisait la même chose, elle aurait un « Bravo mademoiselle » à ce billet d'absence.
Les temps ont tellement changé.
Énormément.
Et ils résonnent drôlement, hein, ces slogans, quand on pense qu'on est 4 jours après la mort de Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Et avec un Rassemblement national en force à l'Assemblée, c'est assez vertigineux. Avec le recul, vous comprenez d'où vient votre révolte de l'époque, votre réactivité épidermique et profonde à l'injustice ?
Je pense, de toute façon, oui, très humble, d'avoir été entourée de pas mal de personnes qui ont pu avoir leur souffrance, leur fragilité, leur bagage, quel qu'il soit, que ce soit amis, famille. Et ça m'a forgée parce que moi-même, j'ai les miennes d'ailleurs. Et justement, je me suis dit, mais au lieu d'en faire quelque chose qui est tabou, qui nous dessert, qui est vraiment retourné contre nous, mais pour moi, c'est la plus belle des forces, en fait, en général, ces fragilités-là, on peut en tirer beaucoup de choses. On peut en tirer. Enfin, je suis sûre que je ne serais pas aussi empathique ou engagée pour le service public ou pour la lutte contre les discriminations si je n'avais pas ces failles-là ou cet entourage. Donc, c'est vraiment en fait cette envie de tendre la main pour qu'on arrête d'être au contraire ceux qui sont mis un peu de côté parce que avec leur vulnérabilité, mais plutôt au contraire de les porter en avant.
Vous passez votre bac, vous l'obtenez, stop les études, terminé. Vous voulez bosser, gagner votre vie, être indépendante, faire tout et tout de suite le grand saut dans la vie d'adulte parce que l'adolescence, parce que l'enfance, au fond, vous n'avez pas tant aimé.
J'ai aimé, mais j'avais hâte de passer à autre chose. Déjà, ouais. À l'époque, hein, je m'imaginais adulte, qu'est-ce que je ferais, comment je ferais. Bon, évidemment, entre la réalité et la théorie, il y a deux choses très différentes. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette pensée de comment ça sera quand je serai grande.
Qu'est-ce qui vous pesait? C'était le fait de dépendre des autres?
Oui, ça, c'est vrai que j'aime pas. J'aime pas du tout. Je préfère vraiment avoir cette capacité à me dire que je peux m'autosuffire à moi-même et que je peux assurer mes propres besoins, ma propre sécurité.
Et alors, pour payer les factures, vous vendrez des téléphones, des vêtements, du matériel photo. Tous les 6 mois, vous changerez. Il faut que ça bouge, il faut que ça swing, faut de la nouveauté. Peut-être qu'au fond, une petite sensation de vide à combler, allez savoir. Mais c'est gagné à 19 ans, vous vous assumez, vous avez votre appartement, vous le partagez avec votre premier petit copain et dans la vie d'adulte, vous plongez. The Killers, Somebody Told Me, parce que
ça bouge, ça va dans tous les sens, et il y a, voilà, il y a du monde, il y a du mouvement, ça s'arrête pas.
Et donc ça vous va bien quand ça ne s'arrête pas?
Ça me va très bien.
Vous êtes sur France Inter, bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on se balade en marge ce soir avec vous, Jennifer Borsellino. Et en fait, ce qu'il y a de fou chez vous, c'est que même l'adversité, vous lui tordez le cou. Vous avez toujours rêvé d'avoir des enfants, l'un d'eux, Elliot, est atteint de myopathie et comme une lionne, vous allez vous bagarrer et à la fin, c'est la maladie qui va chialer. Bref, je vais trop vite. Avant Elliot, Nina, votre fille et Britney Spears.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
On 11 décembre 2008, votre fille Nina est arrivée avec Britney ?
Elle est arrivée avec Britney, ça passait tout le temps à la télé à ce moment-là quand elle est née. Ouais. Et c'était pile la période où Britney Spears avait eu elle aussi ses enfants. Et où du coup, j'ai associé en fait cette chanson à ce passage de Britney, avant c'était l'adolescente, et qui d'un coup devenait maman, avec, et qui bon, visiblement l'a pas très bien vécu, mais en tout cas elle le devenait à ce moment-là. Et j'ai associé ça un peu avec ce changement, en disant ah oui ça y est, c'est... ma vie aussi elle change.
Vous aviez toujours voulu avoir des enfants jeunes comme vos parents,
oui,
Paris gagné, vous avez 23 ans quand vous devenez mère, Paris réussi. Comment est-ce que vous vivez l'arrivée de cette petite fille dans votre vie ?
L'arrivée de cette petite fille, elle a été un peu sans dessus dessous au départ, puisque on a eu des complications médicales malheureusement, donc on ne s'est pas rencontré de suite, on s'est rencontré, elle avait 24 heures de vie. Elle a eu pas mal de petits soucis de santé à la naissance, moi également. Donc heureusement, il y a eu son papa pour assurer l'intérim, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, un amour inconditionnel pour cette petite fille.
Si le lien au départ est mis sur pause parce qu'il y a ses ennuis de santé, au bout de combien de temps vous réussissez à construire, à sentir naître cet amour-là ?
Il est né, il est venu de suite, mais disons que, on va dire, oui, il s'est construit. Chaque jour, en fait, il grandissait encore un peu plus. Puis alors, c'est elle-même, hein, je me souviens qu'elle me regardait avec ses grands et magnifiques yeux noirs qui brillaient. Et vraiment, c'est dans son regard que j'ai vu « Maman, t'inquiète pas, tout va bien, on est là, allez, on y va, quoi. »
Il nous aide, hein ?
Oh là oui.
En tout cas, entre-temps, on n'en a pas encore parlé, mais vous aviez trouvé votre moitié, le père de Nina, similaire et complémentaire à la fois, tout aussi brin de zinc l'un que l'autre, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça, ça vous
va ? On va dire ça comme ça,
bon.
Oui.
Tout va bien de ce côté-là, vous vous mariez, Nina a 2 ans et demi, et vous l'emmenez en lune de miel avec vous, donc ascendant mère poule.
Ascendant très mère poule aussi, ouais.
Compliqué de la lâcher ?
Compliqué de la lâcher, ouais, tout à fait. Non, même trop, hein, je le reconnais, mais c'est vrai que je pense une grande culpabilité quand même de sa naissance, de ne pas avoir été là pour elle tout de suite, de l'avoir fait naître dans des conditions médicales un peu difficiles. Elle a une ponction
de
lombaire.
De l'avoir fait naître, c'est pas vous qui l'avez fait naître.
Oh, c'est vrai que c'est quand même la culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là. Ouais. Voilà, de m'être dit, bon, elle est née, elle a eu directement une ponction lombaire. Je me suis dit, bon, pauvre puce, si. Et au final, non. Mais bon, il a fallu que je fasse le plein pendant longtemps.
Donc, 3 ans de congé parental, hein, c'est ça, le plein pendant longtemps. Et puis, vous reprenez le travail dans l'immobilier sans grande conviction, mais il faut bien gagner sa vie. Et tout à coup, 27 novembre 2013, 5 ans après Nina, donc, le voici, Elliot Happy. La naissance de votre fils, c'est aussi festif que du Pharrell Williams ?
Complètement. Vraiment un coup de cœur, il est arrivé. La première fois que je l'ai vu, j'ai senti tout de suite une grande vague d'amour qui m'a envahie. Et puis c'était super simple. C'était lui. Il venait se greffer dans notre vie de famille qui était déjà installée. Et ça a été un baby euphorie, je disais. Voilà, c'était pas de baby blues. C'était vraiment, j'étais hyper heureuse. Et il y avait la chanson de Pharrell Williams qui sortait à ce moment-là. Et ça représentait complètement mon état d'esprit.
Jusqu'à ce que un par un apparaissent quelques accros, quelques tâches un peu plus sombres dans le tableau général. Il y a des signes chez cet enfant, ce nouveau-né, ce bébé, qui vous inquiètent. Lesquels ?
Il y a des signes qui m'inquiètent, effectivement. Une jambe qui bouge plus que l'autre, une tête extrêmement fatiguée quand il chope le moindre petit virus, le moindre petit rhume. Et les premières années de vie, on sait qu'il y en a pas mal. Plein de petites choses comme ça qui me font dire non mais quand même c'est pas moi il y a quelque chose qui m'alerte quoi et puis évidemment pas très entendu puisque maman mère poule c'est maman qui est trop anxieuse et qui a pas forcément raison
c'est
mais
ce que vous disent les médecins
ce que me disent les médecins
vous
oui,
inquiétez trop
l'entourage aussi hein, pas que les médecins
votre mari il vous dit quoi
oui forcément lui il a tendance à apaiser les choses parce que objectivement tout le monde nous dit que tout va bien, donc c'est normal. Il essaye aussi de se fier à ça, et puis
donc ça aussi, comme la ponction lombaire de votre fille, ça aussi c'est de votre faute, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il a aussi un peu cette habitude de savoir que je peux des fois un peu focaliser sur certaines choses, donc je pense qu'il essaye de relativiser. Et puis avec le temps, bah, les choses se multiplient en fait.
Malgré tout, vous continuez à faire le tour des médecins parce que, effectivement, vous le dites, les signes d'inquiétude, d'alerte se multiplient, mais vous finissez par les croire. Hein. C'est pas Elliot qui a un problème, c'est vous. Il faut dire qu'entre-temps, sont arrivées vos premières crises d'angoisse et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes.
Ouais.
Jusqu'à quel point ?
Ah, mais jusqu'au point que je peux plus sortir de chez moi. Jusqu'au point,
à ce point-là.
Complètement, oui, ça a mis du temps avant de monter jusque-là, mais ça en a fini par aller jusque-là, puisqu'au début, j'allais éviter les situations où je pouvais faire des crises d'angoisse.
Et c'était lesquelles ? Qu'est-ce qui les déclenche, ces crises ?
Ah, ça pouvait être trop de monde, trop de bruit, ou... C'était des fois même sans crier gare, comme ça, d'un coup. Je me rappelle d'une fois, même à la maison, tout allait très très bien, il ne se passait rien de particulier, il y en a une qui est arrivée, enfin, et où justement je commençais à alerter, et j'étais tombée sur un médecin qui visiblement n'y connaissait pas grand-chose de crise d'angoisse, mais il me répond non, si ça arrive alors que vous êtes à la maison tranquille, ce n'est pas une crise d'angoisse, là ça arrive forcément que si vous êtes dans un environnement stressant.
D'accord.
Et donc je me dis, bon bah
visiblement... Bon bah c'est pas ça non plus, là-dessus si je me plante, c'est
bah,
ça
voilà, moi ça a commencé à me remettre complètement en question mon ressenti et ma perception des choses.
C'est-à-dire que puisqu'on vous remet en question sur Elliot, on vous remet en question sur vous-même, en gros, vous ne pouvez plus vous fier à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, à rien du tout.
Tout à fait. Et alors, pour quelqu'un comme moi qui aime bien m'autosuffire et être responsable de moi-même et indépendante, c'est extrêmement dur.
Donc c'est la panique et donc l'angoisse redouble.
Exactement.
Et vous dites à un moment donné, si ça se trouve quand même, c'est de l'angoisse. Donc vous faites le tour des médecins, parce que pour avoir un traitement psychiatrique, il faut passer par un médecin généraliste. Pendant un an et demi, vous allez frapper à plusieurs portes. Qu'est-ce qu'on vous dit à chaque fois ?
Ce qu'on me dit, alors d'abord, bon, évidemment, des examens somatiques, ce que j'ai fait, hein, bien sûr, c'est toujours important de vérifier quand même qu'il n'y a pas de cause somatique. Mais ensuite, c'est de l'homéopathie, c'est de l'ophytose, des plantes, c'est détendez-vous, ça va passer, ou essayez de moins y penser, partez en vacances.
Vous êtes maman, vous êtes trop stressée.
C'est ça, okay. C'est ça. Vous y pensez trop, donc c'est beaucoup d'incompréhension, ou éventuellement, bah, prenez un peu d'anxiolytique, ça va passer, mais très vite, en fait, je sens bien que c'est pas la solution, en fait.
Sauf que l'angoisse gagne du terrain, sauf que vos forces s'amenuisent, vous réduisez vos sorties, vos activités au minimum, c'est jusqu'à ne plus sortir de chez vous, ou presque. Le problème avec l'angoisse, c'est qu'elle passe par les fenêtres et s'introduit disant partout, elle vous frappe de nulle part sans vous laisser aucun répit.
Je croyais qu'en étant connu, ça résoudrait tous mes problèmes. Fini ta fée comme un connard et pas pouvoir se payer un grec. Fini les bâtards qui me snobent, les numéros de meuf avec un mauvais chiffre. Fini mes parents qui se demandent comment ils ont raté un fils. Sauf que maintenant, il n'y a plus rien d'excitant.
Orelsan, quand est-ce que ça s'arrête ? Ça, c'est le titre de la chanson. C'est une phrase que vous avez prononcée, vous vous êtes posé la question.
Ah, clairement. Quand est-ce que ça s'arrête ? Oui, c'était vraiment ça.
Que tout s'arrête ?
Que ça s'arrête. J'ai jamais voulu que tout s'arrête. Okay. Mais en tout cas, je voulais que ça s'arrête. Ouais. Et je n'arrivais pas à le faire comprendre, justement, médicalement. Et j'ai le souvenir, un jour, j'avais même carrément appelé SOS médecin en disant que là, vraiment, ça ne va pas. Et je me souviens très bien de la réaction de ce médecin qui ne me parle même pas à moi, mais regarde mon mari en lui disant. Si. Ah bah oui, parce que madame est visiblement un peu hystérique, hein, je sais pas.
Pardon, je ris.
Et oui.
Mais je sais pas, c'est la colère, le désespoir ou.
Et donc, il se tourne vers mon mari en lui disant mais elle est quand même pas au point de se jeter par la fenêtre.
Pardon.
Et donc, moi, en fait, intérieurement, je me dis mais parce qu'il y a un stade où je vais en arriver à vouloir me jeter par la fenêtre, et je me suis encore plus inquiétée. Et du coup, je ne voulais plus passer à côté de fenêtres. Je voulais plus ouvrir les fenêtres à la maison. Enfin, c'est pour dire à quel point on est dans un monde où vraiment qui ne comprend pas la souffrance psychique, quoi. C'est m'avoir
et
dit
où
ça,
les femmes,
ça
plus que les autres encore, sont décrédibilisées.
Forcément.
Évidemment.
Forcément, elle en rajoute, la femme.
Sauf que vous lâchez ça jamais, donc vous continuez à chercher, et puis un jour, vous trouvez le bon médecin, le bon traitement, vos forces reviennent, la confiance revient aussi, puisque vous aviez raison, c'était bien des crises d'angoisse. Et c'est Elliot qui va pouvoir reprendre place au cœur de vos préoccupations. Il est en CE1, comment ça se passe pour lui ?
Ça se passe, il a fait le CP à la maison, parce que Covid. Mmh. Donc forcément, les difficultés d'apprentissage de la lecture qu'on avait pu observer, c'est maman qui n'a pas su assez bien lui apprendre à lire. Mmh. Donc le CE1, il a un petit peu de retard à rattraper. Et moi, j'alerte en disant Non, je sens bien que ça va pas. Je prends moi-même de lui faire voir des orthophonistes, autres. Mais pareil. Hein,
orthophoniste, ORL, ophtalmo, tout. Vous avez tout fait.
Tout. Ah oui, oui.
Tous les bilans possibles
et
imaginables.
Tous les bilans possibles et imaginables. Tout va plutôt bien, en fait. Okay. Et je continue à dire que ça ne va pas. Là, heureusement, moi, j'ai consulté de mon propre chef un psychiatre, puisque effectivement, normalement, après 26 ans, la Sécu dit qu'il faut une lettre d'adressage du médecin traitant, mais n'ayant pas réussi à en obtenir une en un an et demi, je décide d'y aller par moi-même. Heureusement, je tombe sur quelqu'un de très bienveillant qui m'écoute et qui me reçoit et qui me comprend vraiment et qui me permet de mettre fin à cet engrenage d'angoisse absolument paralysant et qui me permet de reprendre un peu confiance en moi et à me dire, non, là, écoute, le monde médical a beau dire, ou paramédical a beau dire que tout va bien, moi je le sais, ça ne va pas.
Et donc, vous emmenez Elliot faire une prise de sang.
Je et la prise par de avoir sang, une prise de sang.
Vous donne raison.
La prise de sang est plutôt normale, sauf un taux qui effectivement est un petit peu est supérieur. Mais on me dit, oui, mais bon, il peut juste avoir fait un petit virus, et c'est rien, quoi, ça va passer. Non, clairement, c'est pas rien, je le sens, c'est pas un petit virus, c'est quelque chose qui est là, quoi. Donc, faites d'autres examens. Les autres examens sont normaux. Donc, là, en fait, je me retrouve avec deux possibilités. J'abdique hein, en me disant, bon, bah, tout est normal, et non, clairement, j'y arrive pas. Je prends mon gamin sous le bras, les examens normaux, et je débarque chez le médecin sans rendez-vous.
Il y a toujours chez Elliot des signes qui vous inquiètent, oui. Qui sont les retards d'apprentissage, qui sont aussi la
fatigue.
Ça a été
rattrapé par, les suivis, tout ça, mais ça me... Enfin, ça demande, je trouve, un effort qui ne correspond pas à ce que je connais de mon enfant, à ce que lui, il est. Voilà, en fait. Okay. C'est plutôt ça que je dis. C'est pas qu'il y a des signes qui sont vraiment anormales pour tous les enfants du monde. Peut-être qu'un autre enfant a les mêmes signes et que c'est sa norme. Mais lui, en tout cas, mon gamin, c'est pas sa propre norme à lui. D'ailleurs, beaucoup m'ont comparé à sa sœur en me disant « Mais sa sœur est peut-être plus speed que lui, donc c'est ça qui vous inquiète. » Et je dis « Non, non, sa sœur est beaucoup plus calme que lui. Ouais. » Mais sa sœur, c'est elle. Elle est comme ça.
Et vous sentez que...
Voilà. C'est pas sa norme.
Que,
c'est pas lui.
Que lui, ça ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc, effectivement, je finis par débarquer sans rendez-vous en disant voilà, là, je ne sais pas ce que vous devez faire, mais faites-le et écoutez-moi, vraiment, ça ne va pas. Heureusement, je tombe sur une interne qui suit donc, c'est encore ses études hein, de médecine et qui prend le temps vraiment de m'écouter en se disant voilà, je vous entends, je vais chercher. Et qui connaît des bonnes recommandations qui font avec, a posteriori, qu'on aurait pu être diagnostiqués bien plus tôt, mais bon, on va pas refaire le monde.
Ouais.
Mais en tout cas, elle connaît ses recommandations et dose un enzyme plutôt simple en plus à faire, une simple prise de sang, ça s'appelle les CPK. Et voilà, je m'en vais au labo avec mon fils faire ce dosage-là. Mmh. Et effectivement, quelques heures après, bon, bas de combat, je reçois des appels de partout. Le médecin, le labo, tout le monde me dit de filer aux urgences.
Et aux urgences, on vous dit quoi ?
Aux urgences, ça tire un peu la tête quand même. Je vois la tête des urgentistes et je me dis, oh la vache, là, ouais. On n'a pas l'habitude de ne pas les voir confiants. Enfin, voilà, j'ai toujours été aux urgences pour des choses plutôt banales avec, avec sa grande sœur ou voilà, une petite crise d'asthme, des choses qui, au final, les médecins, on les voit presque un peu blasés alors que nous, on est en PLS. Là, c'est l'inverse. Là, je les vois vraiment inquiets. Donc, tout de suite, ils font des examens cardiaques, tout ça. Effectivement, bon, ça va, mais on va être hospitalisés. Et j'ai énormément de chance. C'est que nos urgences de secteur, c'est un centre de référence neuromusculaire en Île-de-France pour les enfants. Et donc, quelques heures après notre arrivée, un neurologue débarque dans la chambre.
Avec une suspicion pour lui, Elliot pourrait être atteint de la myopathie de Becker, qui est une autre forme de la myopathie, qui n'est pas la myopathie de Duchenne, celle qu'on connaît, voit au Téléthon. C'est une autre forme de myopathie, mais il va falloir confirmer le diagnostic avant toute chose. Donc c'est reparti pour 8 mois d'analyse et 8 mois d'angoisse. Au bout du compte, c'est confirmé. Elliot souffre bien de cette maladie neurodégénérative, forme rare, et chez lui, qui lui octroie quand même une espérance de vie conforme à la norme, ça. Ouf, en revanche, on sait qu'il ne guérira pas de cette maladie. On sait aussi que son état va se dégrader. Quand, comment, combien, impossible à dire. Comment est-ce que vous vivez ce déluge d'informations, à la fois le diagnostic et en même temps ce flou ?
Alors moi, je le vis, d'un côté, ça m'apaise en fait. Parce que maintenant, je comprends. Je me dis, ok, maintenant, je sais contre quoi on va se battre. Voilà, je me bats plus contre moi-même, je me bats plus contre un fantôme. Je sais contre quoi on va se battre. Et... Donc moi voilà, je suis complètement engagée tout de suite dans le combat, donc je ferai tout ce qu'il y a à faire et je remercie le papa, parce que lui, à l'inverse, bon, au début c'est peut-être un peu plus difficile parce que forcément lui n'a pas l'antériorité d'être persuadé qu'il y a quelque chose, mais par contre dès qu'il l'intègre, il me dit il sera guéri. Donc voilà, c'est même pas que ça s'empirera un jour, on sait pas quand, peut-être pas. Non, lui il me dit, mais t'inquiète, ce sera le premier gamin Baker guéri et on va tout faire pour. Et en attendant, nous, on va maintenir tout ce qu'il faut pour. Et effectivement,
et
c'est
Elliot, il pense à comment ?
Je pense qu'en fait, sur le moment, il se met un peu de côté. Il nous laisse plutôt la place de nous encaisser. Je pense qu'il sent que c'est peut-être encore plus dur pour nous que pour lui sur le moment. Et il se met un peu en retrait. Il va comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Sûrement le temps de nous laisser nous retomber un peu sur nos pattes. Ensuite, effectivement, oui, il l'a vécu. Il a dit aussi qu'il était en colère, qu'il voulait qu'elle parte, cette maladie, qu'il ne l'aime pas. Et puis nous non plus, hein, on ne l'aime pas. Mais qu'en tout cas, ça ne va pas nous empêcher de vivre, et très loin de là. Et une vie très belle et très satisfaisante.
C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir organiser votre vie pour canaliser cette maladie. Ce qu'il faut, si j'ai bien compris, c'est éviter à la fois les pics de fatigue qui vont avec des pics de douleur.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous faites chez vous pour vos loisirs, à l'école ?
On gère ça vraiment comme un variateur, quoi. On y va, mais c'est millimétré, on s'adapte, on gère l'équilibre, on essaye de toujours avoir un petit coup d'avance en se disant « Ah, là, voilà ». Est-ce que c'est un peu trop, pas assez, on peut y aller, ah, on ralentit un peu. On a appris vraiment à gérer ce rythme. Et Elliot, en fait, non seulement on a appris à vivre avec, mais il va mieux maintenant qu'avant.
Ouais.
Ah oui, parce que maintenant, il vit dans un environnement qui est sa norme, son environnement. Il a des adaptations, effectivement, mais qui ne sont pas non plus ingérables, hein, franchement. Mais au moins, maintenant, il peut réussir à vivre normalement, alors qu'avant, l'environnement de monsieur et madame tout le monde, bah, il le mettait en échec.
Ce diagnostic, il débloque quelque chose chez vous aussi. Ça y est, vous avez enfin trouvé ce que vous vouliez faire de vous, vous et personne d'autre cette fois. Votre place dans ce monde, vous la trouvez dans le champ médical. Vous reprenez vos études, un DU de santé mentale communautaire et une licence de sciences sanitaires et sociales. Et vous, qui rêviez petite de réparer toutes les injustices du monde, vous allez œuvrer désormais pour ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. You woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. 'Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. Vous êtes dans cette énergie-là quand vous reprenez vos études ?
Complètement dans cette énergie-là, et je le suis même physiquement, puisque c'est un des premiers concerts que j'ai été refaire. J'ai été refaire à Bercy, l'Accor Arena.
Ouais.
Alors que j'avais vécu plusieurs années d'agoraphobie très intense. Donc c'est une victoire.
Donc c'est une belle victoire.
C'est une belle victoire.
Aujourd'hui, finalement, tous vos combats se rejoignent. L'idée, c'est quoi ? C'est que chacun a le droit à sa place dans la cité en général et dans le système de soins en particulier ?
Complètement. Chacun a le droit à sa place. Chacun a le droit d'avoir la place qu'il veut et qu'il peut. Et surtout, je crois profondément au service public. Et si je travaille vraiment l'hôpital public, c'est pas pour rien. Parce que demain, il y aura encore des patients. Et des patients qui ne pourront pas se payer des soins secteur 2 hors de prix. Et pour eux, je veux un système de santé qui continue à les accueillir. Parce que des Elliot, il y en aura demain.
Et Elliot, il va comment aujourd'hui ?
Elliot, il va super bien aujourd'hui.
En marge. Sur France Inter.
Alors, en général, arrivé à ce stade de l'émission, je laisse le choix à mes invités. Soit ils sont comme moi, catégorie autruche et tête dans le sable, et la mort n'existe pas, la nôtre en tout cas, et alors on n'en parle pas. Et donc on va parler de la suite, de l'après, de l'éternité. Soit ils affrontent, ils se confrontent et ils foncent. Alors évidemment, pour vous, c'est net, Jennifer, hein, même pas peur la mort, vous voudriez, vous, être incinéré. Et sur du Queen, s'il vous plaît. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop. Donc ça, c'est la musique de votre incinération.
Ouais.
Ok, donc ça veut dire que votre incinération, vous y pensez, vous en parlez, pas de problème, même pas peur.
Non, non, bah non, le plus tard possible hein, quand même,
ouais,
hein,
okay.
Bien sûr.
Ça quand même, oui.
Bon, bah, ça arrivera un jour, forcément.
Mais plus sérieusement, votre rapport avec la mort en général et avec la vôtre en particulier, vous en diriez quoi ?
Je dirais que j'ai moins peur de la mienne que celle des gens que j'aime.
C'est vrai ?
Clairement.
Moi, je suis hyper égoïste, j'ai hyper peur de la mienne.
Non, j'ai peur de souffrir.
Ouais.
Le jour où ça arrivera, oui. Mais ouais. Par contre, si on me dit sûr, ça, tu souffriras pas, bon bah d'accord, ok.
Non, mais je précise que voilà. J'ai peur de la mort de mes proches aussi. Bon.
Évidemment, oui, on va pas non plus.
Bien sûr. Donc quoi qu'il arrive, sur cette route qui est la vôtre et qui vous arrachera à nous, vous partirez, je dirais pelotonné contre quelque chose qui vous accompagne et vous tient chaud depuis toujours, et il s'agit de, attention,
mon traversin.
Et il est où ? Il est là. À côté de vous, à vos pieds, dans ce studio 181 de la Maison de la Radio. Et attention, reveal, je veux dire, on est au niveau de Drag Race, là. Très clairement, en termes de reveal. Alors, il est très beau.
Il est très beau, il est merveilleux.
Il est très grand.
Oui, ah bah oui.
Ah bah oui, non. Vous avez vraiment amené un traversin en studio.
Exactement.
Okay. Vous êtes parfaite,
voilà.
Vous êtes magnifique. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pardon, avec tout le respect que je lui dois.
Alors ce truc, non, c'est pas un truc, c'est Monsieur Traversin d'ailleurs, c'est son petit nom.
J'ai bien senti que j'allais trop loin.
Il a un petit nom, c'est Monsieur Traversin.
Ok.
Et il me suit depuis très 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 longtemps. Quand j'étais passée au collège, en fait, mes grands-parents avaient refait toute ma literie. Et donc j'avais ce traversin. Qui en faisait partie. Alors bien sûr, le matelas de place n'est plus depuis très longtemps. Les draps sont beaucoup trop troués, donc ils ont été changés également. Donc la tête n'est plus la même, mais le traversin lui-même suivi les déménagements successifs. Et c'est lui, voilà.
Il vous suivra donc partout. Il vous fait quoi ? En fait, est-ce que vous êtes toujours cette petite fille somnambule ou est-ce que le sommeil et vous êtes devenus copains ?
Eh bien, le sommeil et moi, on est devenus copains.
Ouais.
Ouais,
grâce à lui, grâce à Monsieur Traversin ?
Alors, pas du tout, parce que Monsieur Traversin, je pense, a vécu pas mal de crises de somnambulisme avec moi. vraiment, je pense qu'il en a vu de toutes les couleurs. Mais non, depuis quelques années, en fait, depuis que j'ai eu mon propre suivi, ben, je ne fais plus de somnambulisme. Et maintenant, même, j'apprécie de dormir.
Pas mal.
J'apprécie.
Ça aussi, c'est une belle victoire.
Ah, mais carrément. Carrément. Ouais, ouais.
Bon, bah, vous le prêterez à Freddie Mercury, hein,
voilà.
Là où vous vous retrouverez pour qu'il puisse enfin, lui aussi, se reposer. En Marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, Jennifer
Merci
Borsellino.
Beaucoup.
On vous souhaite une année 2025 pleine de batailles à engager, de victoires à remporter, peut-être un peu de répit aussi, qui sait, si ça vous plaît, si ça vous dit, je sais pas. Oui.
Et puis, 2025, où on va fêter les 20 ans de la loi.
Oui, alors, on en fera le bilan.
Ouais, voilà.
La loi sur l'inclusion à l'école,
ouais,
et
ouais,
on en fera le bilan.
Le bilan, voilà.
Attendez-nous pour ça, comptez sur nous. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.